est notre invité du jour. Vous allez peut-être me dire atypique. Moi, je dis non, parce que c'est ce qu'on aime bien dans cette émission, c'est d'avoir tout style de gens, et puis surtout, on leur donne un petit peu une carte blanche. On leur demande trois titres de trois générations différentes. Là, on va partir vers Auxerre, Fontainebleau, mais en même temps, on ne sait pas vraiment d'où il vient, on s'est posé des questions. Mais si je vous mets ça...
T'es ma locomotive, chouchou, baby, toutou. Je me suis mis dans des galères pour you, Charlie, piou, piou. Rêve d'un doudou, pas d'un doudou.
Certains l'appellent le phénomène Vakra. Moi, j'appelle ça tout simplement de la bonne musique.
Merci beaucoup.
Bonjour d'être venu déjà. Merci.
Salut.
Avec nous. Le Galatée Tour s'arrête le 23 septembre prochain au Splendide à Lille. Mm-hmm. Il y a une petite tournée. T'es un vrai phénomène. C'est de la folie. Depuis quelques temps, 2021 à peu près, hein, on voit les Spotify qui montent. Phénomène sur TikTok. Tu viens d'où en fait et comment est arrivée la musique chez toi en fait?
Après, d'où je viens, bah, je suis passé par pas mal de villes, donc j'ai pas vraiment un endroit précis d'où je viens.
D'accord.
Je suis né à Fontainebleau, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais sinon, ouais, la musique, elle m'est venue comme ça, avec des amis. Et on a de la chance d'être dans une génération où on nous la met partout aussi. Donc j'ai eu la chance aussi d'avoir ce visu-là comparé à d'autres époques. Donc je suis tombé amoureux très très rapidement de la musique, en généralité. Quoi.
J'ai eu l'impression que ça allait très très vite. Il y a eu des feats, voilà, Hamza, Jul, il y en a eu plein, il y a eu plein de petites choses qui ont fait monter la sauce, on va dire.
Il n'y a pas eu Hamza.
Non, il n'y a pas eu Hamza, mais il en a parlé, j'ai vu que sur une interview, il avait cité une fois ton nom, une fois. Mmh. Parce que pour lui et pour certains, c'est une nouvelle génération qui existe et qui existe aussi grâce aux réseaux sociaux. TikTok fait beaucoup pour la musique depuis quelques années. On peut devenir un tube, tu as été numéro 1 Shazam, je crois, hein, si je ne me trompe pas, ça a été un tube. Comment tu travailles toi tes sons, comment tu les mets en place, parce que c'est totalement différent. Avant on avait un, c'est pour ça que cette émission elle est assez sympa, il y a quelques années on prenait un disque, il sortait en vinyle, on le mettait sur une platine et puis on le passait à la radio. Aujourd'hui c'est plutôt le contraire, c'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'aujourd'hui ça passe des fois sur les réseaux, ça Shazam, TikTok vous transforme n'importe quel titre en tube très très rapidement et puis après ça passe en radio. Comment tu travailles toi tes sons?
Très simplement, en studio, je sais que je m'enferme énormément. Je suis avec les équipes dans le studio et puis on travaille naturellement notre musique. Après, c'est vrai que TikTok a changé beaucoup de choses et pas que dans la musique. J'ai l'impression que ça a changé beaucoup de choses, même au niveau de l'industrie, ouais. Au niveau de beaucoup, beaucoup de choses. Et j'ai eu la chance que ma musique parle à TikTok, donc je trouve ça incroyable, TikTok. Mais c'est vrai que ça peut aller très très vite dû à ces plateformes-là, c'est vrai.
Et puis il y a un truc assez dingue, il y a eu ce mystère, Vakra, on s'est posé la question, mm-hmm. Est-ce que c'est un garçon ou une fille ? Ça, t'en as joué là-dessus ou alors t'as été surpris d'entendre ça ?
Non, c'est marrant, de toute façon j'ai tout le temps la même réponse parce que c'est naturellement vrai, mais en fait je voulais juste pas me montrer, pas trop parler, être discret, et ouais. En fait j'ai jamais joué là-dessus, j'ai juste rien dit, et les gens ont parlé de tout ça et ça fait grossir... toute cette musique.
Tu nous as fait une Mylène Farmer en fait, c'est-à-dire moins on en parle, plus on parle de toi en fait, c'est ça qui fonctionne plutôt bien.
Très belle
en fait.
Référence, hein, très très belle référence.
Donc ça fait buzzer en plus, hein. C'est un truc de fou, c'est-à-dire qu'on s'est posé les gens.
J'ai vraiment pas trop de recul sur les réseaux.
Ouais.
Toi tu me parlais de numéro 1 Shazam, en fait j'ai pas du tout ce recul là, je suis pas très très réseau, j'essaye de répondre un maximum,
ouais.
Mais tout ce qui est de ma situation, j'ai vraiment beaucoup de recul là-dessus.
En fait, tu es en studio, tu fais ta zik, là tu montes sur scène, tu vas aller rencontrer les gens,
ouais.
Tu vas aller voir, et ce qui se passe sur les réseaux, c'est un bien, mais c'est pas vraiment...
Après, il y a toutes les équipes qui font un travail monstre, et je leur dois pratiquement toute cette aventure, parce qu'il y a vraiment ce travail de fond. À chaque fois, je le dis, c'est comme une boulangerie où tu as un très bon pain, et puis tu es dans une impasse, et puis tu as des personnes comme mon équipe qui me mettent dans un coin de rue où il y a beaucoup de passages, et on vend le pain. Je le vois comme ça, donc je sais que je fais juste de la musique en studio... J'essaye de produire la meilleure musique pour moi, à mes yeux. Uh-huh. Et eux s'occupent de tout le reste et ils font ça merveilleusement bien, quoi.
Et ce que j'aime bien dans cette émission, c'est que du coup, je demande à chaque fois trois titres, trois décennies différentes. Et alors là, je me suis dit, je m'attendais à un petit Fugees, voilà, je m'attendais à des petites choses. Il y a un Fugees, mais alors le premier titre, on va l'écouter parce que Vakra m'a sorti ça. Écoutez. Premier son, donc Murray Head. Cultissime.
Je
Alors lui, il a transformé aussi la musique. Cry Me a River, Justin Timberlake.
C'est très très chaud techniquement aussi.
Ouais, c'est ce que tu me disais en fait, c'est très très. Il y a de la ASMR et tout. C'est vrai, ouais, quand on écoute le titre, on sait pas. Quand on le décortique, on est assez surpris.
Il y a plein
hein.
de bruit de bouche, c'est géré d'une manière. C'est vraiment extraordinaire. Et puis sa voix, c'est bien géré. C'est un monstre de production, ça.
Et comme on en parlait tout à l'heure hors antenne, depuis vendredi, Timberlake de retour avec Nelly Furtado et Timbaland. Court extrait, trois styles.
C'est vrai qu'il y a toujours la même recette, hein, c'est impressionnant.
Ah bah, je pense que c'est la recette Timbaland, mais après, je pense c'est hyper important, je crois, que pour un artiste de garder sa recette. Je pense qu'aujourd'hui, Vakra, c'est toi, c'est une certaine façon de chanter, c'est une façon de produire. C'est vrai que les gens ici, en France, mais même beaucoup, quand on a une touche, quand on a quelque chose, c'est compliqué de la changer. Les gens, s'ils ne te reconnaissent pas, clairement, ils vont aller voir ailleurs.
Après, il y aura toujours une évolution, parce que c'est vrai qu'on se lasse d'une recette.
Ouais,
on va toujours amener un ingrédient différent.
De toute façon, il y a soit une évolution, soit une disparition. Les trois quarts du temps, c'est l'un ou l'autre, et puis on revient un petit peu plus tard avec autre chose. Moi, ce qui m'a super étonné, c'est quand même ce titre, Saïd & Sojo de Murray Head. Mm-hmm. Pourquoi celui-là ? Celui-là, je ne l'attendais pas.
Mais déjà, parce que dans mon enfance, j'ai eu la chance de pouvoir l'écouter beaucoup en famille. De deux, parce que la guitare, je la trouve complètement extraordinaire. Murray, je le trouve fou dessus. Et c'est un morceau aussi qu'on redécouvre avec le temps dans Rasta Rocket, il me semble,
ouais,
quand il porte le bobsleigh à la fin.
Ouais.
Et c'est un morceau qui me donne beaucoup de force. Mais après, quand tu m'as demandé trois morceaux, j'en avais tellement à donner.
Ouais, tu m'as dit Prince, Purple Rain, il y
avait
d'autres.
Il y a tellement de personnes à cette époque-là que...
C'est vrai que la musique, elle était folle. En se disant qu'en plus, à ce moment-là, il y avait quasiment pas d'ordi. Sur certains
voilà,
titres qu'on
exactement.
Peut écouter, des David Bowie, c'est vrai qu'on a, la possibilité maintenant avec un petit clavier, un ordinateur, en pleine chambre d'hôtel, de créer un tube. Hein,
mais ça tant mieux aussi. Mais je suis d'accord qu'à l'époque, il y avait vraiment un travail d'hardware, d'instruments, de mix, et l'artiste, c'était quand même très très gros et très intéressant musicalement, mais je suis tellement content qu'on puisse avoir notre petit clavier dans une chambre d'hôtel. Et que ça devienne plus accessible parce que...
Ça coûtait plus cher, hein, parce que quand on avait une idée, fallait aller en studio,
exactement.
Fallait chercher les gens.
Exactement.
Mais c'est vrai que moi, je suis allé à un concert il y a pas longtemps à Lille de Nile Rodgers.
Mm-hmm.
Qui en a fait des succès. C'est de la folie.
Tu vois, je connais pas vraiment sa musique, je vais écouter, mais...
Nile Rodgers, pour te raconter, il a démarré sa carrière avec le groupe Chic. Nile Rodgers, c'est lui qui a fait le titre Spacer de Sheila, mais c'est aussi lui qui a écrit le Let's Dance de David Bowie, c'est lui qui a fait les titres du premier album de Madonna, il a fait les moitiés des tournées de Michael Jackson. Aujourd'hui, quand on écoute en concert un concert d'un mec comme Nile Rodgers, il y a quasiment la moitié des titres qui ont été samplés. C'est lui qui fait la guitare et qui est dans Get Lucky des Daft Punk. Il a 79 ans, il roule encore en roller, il a eu deux cancers dans sa vie. À chaque fois, la musique l'a sauvé, comme il le dit à chaque fois, et il vous raconte des histoires pendant un concert, et je te conseille d'aller écouter, parce que je pense que tu serais halluciné de voir ce mec-là, qui a vécu l'évolution de la musique, d'aller avoir...
Le nombre de productions sur lequel il est placé, etc.
C'est un truc de fou. Un riff de guitare s'est transformé des fois en sample sur 7, 8 tubes, 10 ou 15, voire même 50 ans plus tard. Voilà, ça fait partie des artistes qui sont marquants. Donc Vakra, c'est aussi en tournée. Tu le disais, tu jouais un petit peu, t'étais discret, t'étais plutôt en studio.
Mmh.
Du coup, comment on se motive pour aller en concert quand on est plutôt un homme de studio ?
Ben justement, j'ai dû un peu casser ce mystère parce que je voulais rencontrer les gens.
Uh-huh.
Et plus le temps passe, plus c'est vraiment un truc, c'est un objectif.
C'est totalement différent, en plus, la scène et le studio, c'est plus la même chose. Mais
ouais.
C'est important. Est-ce que tu te dis qu'à la fin, peut-être même de cette tournée, tu produiras peut-être différemment aussi, parce que tu vas voir la réaction
des gens?
Mais
déjà là. Ouais. Là, on est en train vraiment de travailler la suite. Enfin, on essaye de ramener la meilleure musique possible. Et en fait, on s'est adapté à tout ça.
Mmh.
Parce qu'on s'est vu en concert à certains morceaux qu'on trouvait peut-être plus mou que d'autres.
Ouais.
Après, on a vu comment le public réagissait, ce qui était bon. Ça forme beaucoup la scène.
La scène, c'est hyper important pour tout le monde.
Mm-hmm.
La façon de travailler en studio, la façon de faire aussi, c'est totalement différente. Mais clairement, le Galaté Tour, c'est quelque chose que tu as travaillé toi, tout seul, avec ton équipe, où tu avais déjà des idées.
Oui, on avait des idées, mais tout le temps en équipe. Généralement, je suis jamais tout seul. Je suis tout seul quand
le
je suis en cabine.
Le gars parle d'équipe. J'ai l'impression que le gars, tu as racheté la Geocer ou pas? Parce que t'es hyper équipe en fait. Hein. Moi, tu vois, gars en studio, solo, je me suis dit, en fait, rien à voir. C'est vraiment, tu mets en avant beaucoup les gens avec qui tu bosses en fait. Hein.
Bah, c'est surtout que ils font un travail immense et je suis très très heureux d'avoir cette équipe. Je changerai rien et tout se passe comme prévu.
Est-ce que t'es surpris du succès ou pas?
Oui, évidemment que je suis vraiment surpris de la hauteur du succès. Après, en fait, comme je dis, je vois le travail qui a été fait pour arriver là et je me dis qu'on est en train de travailler une suite où je serais surpris, évidemment, de ce qui va se passer.
T'as le stress ou pas de te dire après les succès là, non? T'as l'air d'être plutôt cool, tu prends ça, mais tranquille. Pas à la légère, mais voilà, t'y vas, tu te laisses pousser et tu te dis c'est très bien, ça marche.
Bah après, je sais que même s'il n'y a pas forcément le succès qu'on attend sur n'importe quel titre, je l'ai travaillé à fond, je suis amoureux du titre, j'aime la musique qu'on a produit ensemble. Et pour moi, c'est le plus important. Après que ça marche, c'est vraiment le public qui va décider. Et ça, vraiment, je peux rien faire pour.
Non, mais le public a décidé. En plus, ce titre-là, vous l'avez, Vakra, Tika Tika, vous le connaissez, hein, forcément. Donc la suite, c'est bien sûr sur scène désormais, le Galatée Tour, c'est le 23 septembre au Splendide de Lille, mais il y a plein de dates partout, hein, voilà. Et puis la suite, voilà. Est-ce que t'es plus sorti d'album ou alors maintenant sorti single? J'ai vu qu'il y a eu pas mal, même Guetta, on a parlé avec le phénomène, les changements, les réseaux sociaux. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ça sert encore de sortir un album ou plutôt des tracks comme ça, assez souvent? Toi,
Moi, je suis pour les deux parce que travailler un album, c'est différent et j'aime énormément pratiquer ça. J'aime énormément travailler tout un projet avec une cohérence, un fond, l'imagerie qu'il y a derrière, les promos, je trouve ça trop intéressant. Donc, je suis fan de la production d'albums ou de projets. Après, c'est vrai qu'un single, c'est totalement une autre approche, mais que je trouve aussi intéressante, quoi.
Et bah, découvrir, aller voir sur scène Vakra, ça se passe à Lille. Le Galatée Tour s'arrête le 23 septembre. En plus, on vous offre des places. Je vous mets ça sur les réseaux sociaux, sur le Facebook, sur l'Insta. N'hésitez pas à aller faire un tour. Découvrez vraiment l'atmosphère de Vakra qui, sur scène, va être explosive, j'en suis sûr. Merci beaucoup, en tout cas.
Merci à vous. Merci beaucoup.